Ça, c'est une musique de jeu vidéo.
Trouves-tu?
Ben, à vous.
On peut se balader là, en auto.
Ouais.
Course de moto.
Exactement. C'est ça, là.
Est-ce que
c'est
dans NHL?
Ouais, NHL, entre deux matchs, ça passera bien, Cinderella. Ouais, j'aime vraiment ça. Là, jeux vidéo, y a-tu quoi qui se passe avec les jeux vidéo, Pascal? C'est
bien, notre collègue Colosse, qui est à l'affût de ça, nous a envoyé quelques minutes un genre de publication qui a été fait par Rockstar Games. À quoi vous associez Rockstar ces temps-ci?
GTA, évidemment.
On a un petit ado aussi dans le studio qui est GTA,
ben oui.
Alex.
Donc, Ali, le gars de Val qui nous visite.
Ouais, on l'attend, Grand Theft Auto, la nouvelle version. Puis là, on a un look en avant-première, on pense, sur Netflix. Fait que là, c'est encore une histoire de les nouveaux géants réussissent à mettre de l'argent quelque part où le monde va regarder. Et le 27 août prochain, 3 heures de l'après-midi, on aurait les premières images de Grand Theft Auto qui va sortir. On ne sait pas encore trop quand encore. Là. Ça peut être encore retardé.
Oui, ça fait plusieurs retards.
Ça fait des années de retard à plusieurs retards. Mais on aurait les premières images du côté du 27 août.
Oh,
peut-être des images de gameplay, des vidéos avec narration qui expliquent les nouveautés.
C'est ça. Ali, tu vas maintenir au courant de tout ça, sur les médias sociaux? Oui, hein?
C'est ça. Signe de tête.
Ah, c'est parfait, ça. Comme ça, moi, avec Ali, je suis sûr qu'ils vont me montrer les nouveautés. Moi, j'ai enregistré la date du 13 août pour ce qui est de la sortie de Madden 2027. Moi, je suis un grand fan de Madden sur le PlayStation, donc le 13 août. Le 13 août, c'est dans pas longtemps, ça. C'est jeudi de la semaine prochaine.
Ça s'en vient.
Et je vais pouvoir jouer à mon nouveau Madden. Hey, on vient de parler de Grand Theft Auto. Il y a de la circulation, peut-être, dans la thématique voiture.
Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec Grand Theft Auto.
Okay.
C'est pas comme une nouvelle qu'on a lue dans les dernières 24 heures là, qui nous rappelait Grand Theft Auto pour la tragédie de la chose. Mais incident sur Laurentienne Sud, autant boulevard des 7, la voie droite qui est bloquée. Je vous en parlais, il y avait la panne pour un véhicule lourd. On est encore là-dedans, ça a ralenti le secteur.
Enquête dans les bonnes nouvelles. Je veux juste vous dire que l'ado qui vient d'entrer en studio, Oli Morin-Toulouse, qui est le fils de ma conjointe, hier à la maison, il a passé la tondeuse, il a passé le weed eater, puis il a passé le balai.
Oh, c'est rendu un homme, c'est ça que tu penses?
C'est une machine de guerre. Je suis tellement content qu'il soit là ce matin. Fait que par texto 418-971-101, là, vous pouvez dire un petit salut à notre Oli qui fait des tâches ménagères extraordinaires. D'un truc extraordinaire, on va passer à un truc qui est très consternant, je peux le dire comme ça, qui s'est passé dans un RPA à Charlebourg. Alex, est-ce que tu peux nous résumer justement cet événement-là?
Oui, ça se passait du côté de la RPA, la Chambrière de Vanier, et ça concerne une résidente de la RPA, là, Christine Tremblay, 76 ans, qui souffre d'Alzheimer depuis 2012, puis elle est considérée inapte depuis 2023 en raison de sa condition. Et c'est un incident qui s'est passé, principalement une chicane, ça date du mois de juin, qui aurait dégénéré entre Mme Tremblay et une autre résidente. Elle a ensuite frappé une autre personne directement au visage. Et là, les policiers ont été appelés sur les lieux. En fait, c'est deux policières qui se sont présentées. Et là, la famille de Mme Tremblay dénonce l'intervention policière. On dénonce notamment l'attitude des policières durant l'arrestation. Elles l'ont assise, ils l'ont chicanée en la pointant du doigt, l'ont pris par le bras. Ça a laissé des bleus aussi sur Mme. Puis ce qu'allègue aussi, c'est qu'on les a pas informés de l'arrestation de Mme Tremblay, qui, on se souvient, est inapte. Elle ne peut même pas signer un document à la banque en raison de sa condition. Et là, visiblement, elle peut faire face quand même à une arrestation et à des chefs d'accusation. Là, elle est accusée de voie de fait armée. Et là, elle devra faire face à la justice pour cet incident qui remonte au mois de juin.
Pour en parler avec nous, on a M. Paul Brunet. Il est Paul Brunet est directeur général du Conseil pour la protection des malades. M. Brunet, merci beaucoup d'être présent ce matin.
Bonjour à vous.
M. Brunet, comment qualifiez-vous cet événement? Moi, on dirait que je suis sans voix qu'on arrête une personne qui souffre d'Alzheimer, qui est déclarée inapte, qu'on la menotte, puis qu'on continue à porter des accusations criminelles contre elle.
Oui. Le moins qu'on peut dire, c'est que c'est un gâchis sur le plan des événements. Écoutez, il y a une altercation dans une RPA qui, en principe, n'accueille pas de gens violents. Personne n'aurait jamais dû être hébergé là, premièrement. Alors, Il y a une altercation, on appelle la police. La police, elle sait quoi faire en situation de violence. C'est d'arrêter l'agresseur, puis empêcher qu'il bouge ou qu'il se mette à frapper d'autres mondes. Mais pendant ce temps-là, il y a 4-5 employés, j'ai vu vidéo, qui tournent autour, qui n'informent pas les policières à l'effet que la personne est complètement partie, n'est pas là, est inapte depuis quelques années. Les policières semblent parler avec quelqu'un en autorité qui ne semble pas non plus se questionner sur l'aptitude de la personne, parce qu'elle n'est vraiment pas là. Là, je veux dire, on se rend compte que ça n'a pas de bon sens. Alors, premier problème. Le deuxième, c'est qu'on y met une note qui est hautement non recommandée en matière de santé mentale. Mais les policières ou le service de police semblent dire qu'ils n'étaient pas au courant que la dame était inapte. Bon. Mais là, on peut s'informer, mais il n'y a aucun des employés, personne en autorité dans le RPA, ça c'est un autre problème, pour dire, hey, arrêtez une seconde, cette madame-là n'est pas là. Mais là, il y a pire. On l'arrête, on la détient, on l'envoie en prison, et on la fait comparaître alors qu'une personne inapte n'encourt aucune responsabilité pénale ou criminelle. Et là, il y a pire, on s'en va devant un juge, et le représentant légal qui est là pour dire au juge, cette madame-là est inapte, il comprend pas ou il veut pas comprendre. Il assomme de comparaître pour des accusations de voie de fait. Non, mais écoutez, c'est d'une ignorance à de l'incompétence grave qui se suit, là, puis qui s'échelonne sur plusieurs événements avec du monde supposément intelligent qui aurait pu comprendre ou échanger l'information, à savoir, coudonc, on sort de où cette femme-là est en RPA, qui aurait jamais dû l'héberger parce que sa perte cognitive était trop forte. Fait que plusieurs événements. Le seul souhait que j'ai, là, on va arrêter de niaiser, il faut que le DPCP arrête cette folie-là puis retire les accusations. De toute façon, on ne pourra pas être reconnu coupable.
Non, mais c'est ça. Elle va être reconnue non criminellement responsable, là, pour reprendre les termes qu'on connaît. Alors, je ne sais pas pourquoi on continue justement le combat contre cette pauvre dame.
Mais écoutez, là, le juge ou le juge magistrat, je pense, la fin de semaine, il n'a pas compris qu'avec le représentant légal de madame, que cette personne-là, elle ne peut pas répondre de ses gestes. C'est quelqu'un, c'est un avocat ou une avocate, je ne sais pas qui ce que c'est. Il est supposé de savoir qu'une personne inapte n'encourt pas de responsabilité. C'est qu'on arrête ça là. Ben non, à la somme de comparaître éventuellement pour. Écoutez, j'étais renversé avec le journaliste Philippe Séguin. Je suis tombé en bas de ma chaise. Voyons donc ça. Ça n'a pas de bon sens. Alors, il faut que le DPCP arrête tout ça, cette folie-là, et surtout qu'il y ait une meilleure formation. Quand on rentre dans un RPA ou un CHSLD, on s'informe de la condition de la personne qui, en principe, est agressive ou violente. On s'en informe. D'ailleurs, une des policières, elle passe son temps au téléphone. J'ai l'impression qu'elle pose des questions, puis elle veut savoir un peu plus. Mais l'autre, au bout du fil, il va falloir l'aider bien plus. Et là, on arrête la personne, on la menotte, puis on la met dans le char, puis on l'envoie comparaître. Écoutez, je suis triste de cet événement-là et j'espère qu'on va arrêter les accusations, un, et que la famille va prendre des mesures parce que tout le monde s'est énervé de ça. La dame a subi des blessures légères, mais quand même, on l'emmène en prison plutôt que de l'envoyer dans un centre de crise psychiatrique. Ça ne tient pas la route du début parce que les employés n'ont pas jugé intéressant et intelligent de parler aux policiers pour leur dire son état. Les policières qui ne posent pas plus de questions. Et à la fin, on la fait comparaître devant un juge magistrat en présence du représentant légal. Un représentant légal, ça veut dire « Allô, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Cette dame-là, là, c'est quoi son état? » Si on lui dit qu'elle est inapte, ben on arrête les procédures-là, on ne va pas plus loin. Ben non, on ne fait pas ça, on la somme de comparaître, on fait signer la promesse de comparaître par le gars qui la représente, je pense que c'est son fils ou son frère. Oh, mais enfin, monsieur, on a de l'ouvrage à faire là.
Ah, ça n'a aucun sens.
Oui, monsieur Brunet, c'est vraiment déplorable à plusieurs niveaux, mais j'ai accroché sur de quoi que vous avez dit. Vous avez dit que cette dame-là là, qui souffre d'Alzheimer n'aurait jamais dû se retrouver dans cette RPA-là. Mais c'est quoi les ressources qu'il y a disponibles là, pour ces personnes-là? Parce qu'on s'entend avec le vieillissement de la population, il va en avoir là, des cas comme ça là, qui vont s'en venir dans les prochaines années.
Mais c'est une RPA de classe 3. En classe 3, tu peux avoir des gens en perte légère cognitive. Dans son cas, c'est une perte lourde cognitive, donc elle n'avait pas d'affaire d'être là. C'est une classe 4, ça prenait, ou un établissement sécurisé, adapté, avec du personnel compétent qui sait comment s'y prendre avec quelqu'un de violent ou d'agressif, comme à Pinel, comme à Québec, à l'Enfant Jésus, une section de maladie mentale. Fait que là, le personnel ne sait pas quoi faire, les policières ne posent pas plus de questions. Et je les comprends, parce qu'eux autres, là, quand ils arrivent sur place, il y a une altercation, on pogne l'agresseur et on le maîtrise. Ça, c'est la job de base d'une police. Après ça, on pose des questions qu'on s'aperçoit que la femme devait être conduite dans un centre de crise et non en prison. Comment?
Oui, ça se peut-tu qu'il manque de place, justement, dans les grades 4 là, que vous mentionnez, qu'il n'y a tout simplement pas de place, puis que là, la famille s'est retrouvée à la mettre dans un endroit, justement, qui n'est peut-être pas adapté là, pour ses besoins?
Bien, si, quelles que soient les autorités qui ont accepté qu'elle soit placée là, c'est une grave erreur, parce que vous voyez les conséquences. Dans un endroit adapté, il y a des aires prothétiques où les gens ne peuvent pas circuler et aller frapper tout le monde. Et ils sont protégés et les autres résidents sont protégés. Fait que cet endroit-là était inapproprié et inadapté. Et le personnel non plus n'est pas formé pour répondre à ces agressions-là comme ça se fait dans les centres psychiatriques. Alors, ça part d'une erreur d'admission aux autres erreurs là, que j'ai nommées plus...
Est-ce que c'est difficile si je suis une famille puis je me rends compte que justement là la personne de ma famille est en perte cognitive importante, elle n'est pas au bon endroit de la transférer? Est-ce que le système est très lourd pour les transferts?
Ça se peut. On n'est pas à un retard près puis à une lourdeur près. Mm-hmm. Mais cela dit, c'est inacceptable que les autorités, qu'il s'agisse du CIUS ou de l'établissement territorial de Québec, ou encore des autorités de cette résidence-là. Personne n'est en autorité, là. Il y a beaucoup de monde qui tourne autour de la dame, des policières, mais il n'y a personne qui dit « Y a-t-il quelqu'un qui connaît son dossier? » On est supposé de connaître le dossier des résidents dont on s'occupe. Alors, personne ne s'en occupe. Peut-être que le personnel a été intimidé par la présence policière, ça, je peux le comprendre. Mm-hmm. Mais cela dit, il n'y a aucune raison pourquoi tout ça s'est passé sans que personne décide. Wow! Cette femme-là, là, a dit des folies, elle raconte des histoires, elle menace tout le monde. Je veux dire, elle n'est pas au coin d'une rue, là.
Non, c'est ça.
RPA. Elle est dans une RPA. Alors, j'espère que le DPCP va tout arrêter cette folie-là et qu'on va donner plus de formation en matière de santé mentale à tout le monde.
Donc, c'est votre souhait, c'est les apprentissages que vous voulez qu'on fasse de cette situation-là.
Oui.
Parfait. Monsieur Paul Brunet, président du Conseil des malades du Québec, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui à l'émission Marceau le matin à Boulevard 102.1. Paul Brunet, président du Conseil des malades. Il y a eu plein de manquements là-dedans, là, à commencer par le RPA, là, c'est clair. Là. Puis moi, Alex, je peux pas croire que le DPCP continue de porter ces accusations. Maintenant, c'est correct, là, t'as fait ta job une fois, puis là, tu réévalues, puis tu te dis, ouais, ça se pourrait-tu là, qu'on va trop loin? Là?
Ben en fait, t'sais, dans cette histoire-là, ce qu'on se rend compte, c'est que personne ne se parle. Les policières sont arrivées, n'ont pas parlé au personnel ou le personnel n'a pas parlé aux policières pour comprendre la situation de la dame. On n'a pas parlé non plus au DPCP avec les gens de la RPA qui ont pu dire « Ouais, la madame, ça fait 3 ans là, qu'elle est rendue inapte, là, que cognitivement, elle n'est plus là, que visiblement, elle était peut-être en crise à ce moment-là. » Que c'est quelque chose de passager. Puis encore une fois, M. Brunet nous l'a dit, elle n'était pas au bon endroit.
Pas du tout.
Dans la RPO, ce qui était, il n'y a pas nécessairement les services, la manière que c'est adapté pour des personnes justement qui sont rendues inaptes et qui perdent contact avec la réalité, là, littéralement. Donc honnêtement, non, c'est déplorable à tous les niveaux dans cette histoire-là.
Ah, vraiment, il faut vraiment qu'on soit plus vigilant dans notre façon justement de placer ces personnes-là aînées qui souffrent d'Alzheimer, qui sont inaptes. Je crois là, qu'on est capable, avec le site Journal de Québec, d'écouter une partie de l'intervention policière. J'y vais live avec vous.
Et puis Mme Tremblay qui a passé la...
Une femme de 76
non,
ans...
Non, malheureusement, c'est juste des images qu'on voyait. Donc, alors voilà, c'est cette histoire-là. Est-ce que ça vous fâche de voir ça? 418-971-1021. Moi, je ne suis pas nécessairement fâché, je suis juste découragé qu'on ait fait ça à une pauvre dame qui est inapte de 76 ans, qui souffre d'Alzheimer.
C'est une réalité qui va être de plus en plus présente. Là, on en parle du vieillissement de la population. Puis moi, dans ma famille, un peu éloignée, il y a quelqu'un qui a été souffert d'Alzheimer. Puis tu sais, là, on parle d'une personne qui était quand même placée dans une RPA, mais des fois, elles sont dans leur domicile. Puis juste de prendre le premier pas à dire « OK, là, je suis plus capable de m'occuper, par exemple, de ma femme ou de mon mari », puis de la placer, c'est un gros pas, là.
Vraiment.
Là, en plus, ce qu'il nous dit, M. Brunet, c'est qu'on peut la placer en RPA, puis c'est déjà pas adapté. Ensuite, il faut aller dans un grade 4. Fait qu'il va en avoir encore plus d'histoires comme ça si les gens n'arrivent plus à communiquer entre eux puis trouver les bonnes solutions.
Moi, mes deux grands-mères, autant maternelles que paternelles, ont terminé malheureusement avec le Alzheimer où ils reconnaissaient à peu près plus personne. Ouais. Ma grand-mère, du côté maternel, d'énormes crises de démence. Putain, on parle d'une femme qui a perdu son mari quand j'avais 4 ans puis qui est décédée là à peu près 5 ans. Ouais, décédée pendant la COVID. Fait que ça sauve là 5 ou 6 ans. Donc, qui a élevé 11 enfants pratiquement seul parce que mon grand-père était militaire. Une femme douce qui accueillait tout le monde puis qui finit dans des crises de colère comme ça. Ça a beaucoup marqué ma mère, malheureusement, négativement, parce qu'elle disait « j'aurais jamais voulu voir ma mère comme ça ». Et avec raison. Puis on l'a vécu justement, ce fameux transfert-là d'RPA parce qu'elle était justement dans un grade 3. Puis à un moment donné, à un moment donné le grade 3 disait « écoutez, là, on est plus capable, on peut plus, ça va au-delà de nos ressources ». Le transfert avait quand même bien été à son nouvel endroit, mais ça avait été quelque chose de pas facile à vivre. Tu sais, pour te donner un exemple, dans les derniers moments qu'elle était en stade 3, ma mère va la visiter, puis elle est dans son appartement, parce qu'elle avait un appartement, mais elle avait aussi le service de bouffe, mais elle avait pris seulement pour le souper. À ce moment-là, quand elle était rentrée là, elle était encore inapte à se faire à manger. Il y avait une infirmière qui venait pour sa médication à chaque jour. Puis là, il y a un bol de chips avec une liqueur sur sa petite table de salon. Fait que ma mère, elle demande « Ah, tu sais, mange des chips. » Elle, non, c'est pour Sam, ça. « OK, Sam. Qui, Sam? » Ben, le fils à Claudine, c'est ma cousine qui habite à Montréal. « OK. Ouais, je le garde, Sam, aujourd'hui. » »« OK, il est où, Sam? » Sam doit être rendu à 26 ans, genre de bord pour Air Canada. Ouais. Fait que tu vois, quand le cerveau décide de décrocher, c'est vraiment pas évident, c'est pas facile. Alors, je pense à la famille de cette pauvre dame, la famille Tremblay, qui là, en plus d'être pris à devoir justement faire les démarches pour changer leur mère de place, bien là, sont prêts avec des démarches judiciaires, sont pris avec justement cette situation-là désolante où leur mère a subi des blessures corporelles. C'est vraiment pas facile pour eux. Donc, réagissez, 418-971-1021. Vois-tu Marie-Ève qui nous écrit « Très touchant votre chronique ce matin. Mon père souffre d'Alzheimer sévère depuis plusieurs années. Il a 65 ans, moi j'en ai 30. J'accompagne ma mère dans cette épreuve, mais c'est très dur de voir mes parents souffrir autant. Il ne reconnaît plus sa femme des 40 dernières années. »
Ben c'est ça aussi, c'est que l'Alzheimer, c'est particulièrement difficile pour l'entourage parce qu'à la limite, la personne, rendue à un certain point, ne se rend plus compte de rien.
Exactement.
Mais là, c'est tous les proches qui sont pris avec cette situation-là. Honnêtement, puis tu sais, là, on a le témoignage de Marie-Ève, mais je suis sûr qu'il va en avoir d'autres témoignages comme ça, puis ça va juste aller en augmentant.
Ah oui, je pense à ma grand-mère maternelle. On a fêté, imagine-toi donc, les 65 ans de mariage de mes grands-parents. Mais à ce moment-là, ma grand-mère était placée aux résidences à l'hôpital Général Sacré-Cœur en Basse-Ville de Québec. Puis là, ben mon père avait loué un petit local, là, puis on avait fait venir du Saint-Hubert, puis c'était juste pour le souligner. Puis moi, ben qui étais animateur les deux dernières semaines le matin, Nathan Meilleur, ça donne que c'est le chum de ma cousine. Donc, il y a des enfants avec ma cousine et tout ça. Alors, il était là, présent à cette rencontre-là. Mais c'était une de ses premières présences dans la famille. Et moi, j'ai un oncle qui est décédé à 49 ans, mon oncle Pierre. Et ma grand-mère prenait Nathan pour mon oncle Pierre.
Ah ouais, hein?
Ouais, puis Nate a vraiment été bon. Il a joué le jeu.
Ben oui, Nathan,
il a joué le jeu, il était son fils, c'était écœurant. Mais je me souviens d'un très grand moment de tristesse parce que je suis... Il y a ma grand-mère, il y a mon oncle André qui est assis, puis moi, je suis assis, on est tous en train de manger notre Saint-Hubert. Et là, ma grand-mère se met à pleurer. Puis, mon oncle André le regarde, ça va pas, man, qu'est-ce qu'il y a, tu le quittes? Et comme un petit moment de lucidité là où elle dit... Ben, je suis convaincu que tous les gens qui sont là pour moi, mais je les reconnais pas. Puis ça la faisait pleurer.
Aïe, aïe.
Mon oncle André vraiment était bon, il fait le tour de la table, puis il a nommé tout le monde, puis tout ça. Mais t'es quand vraiment, c'était... Non, c'est des maladies difficiles, c'est des maladies pas faciles à vivre. T'sais, mon père allait la voir à chaque jour parce que c'était à proximité de marche. Et... il achetait régulièrement des biscuits. Ma grand-mère, c'était une grande fan de biscuits, puis une grande fan de hockey. Fait qu'il allait sur l'heure du souper, puis... mettais ça à TVA Sport pour la game de hockey, puis ma grand-mère regardait le hockey, puis était bien contente, même si elle se souvenait plus que le Canadien était habillé comme ça.
Mais juste le moment. Là.
Juste le moment, exactement. Puis il y avait un préposé au bénéficiaire qui était super drôle. Lui, il disait, hey, je l'aime assez. À mon père, il disait, je l'aime assez, votre mère. Il dit, moi, je prends mes pauses avec, j'écoute la game.
Ah,
puis
bon.
Il dit, je jase avec. Donc, ma grand-mère, c'était toujours le même pattern où, quand mon père venait la voir, puis elle avait fini sa boîte de biscuits, elle disait à mon père, hey, il y a un monsieur, je le connais pas, mais il est vraiment gentil, il m'amène toujours des biscuits. Vous, monsieur, m'en ramèneriez-vous? Fait que là, mon père, il repartait, puis il revenait avec des biscuits. Mais tu sais, jamais qu'elle flashait sur le fait que c'était son fils.
C'était toujours,
il y a un monsieur, hey, vous, m'en ramèneriez-vous? J'ai trouvé mon père vraiment bon là-dedans, de jouer le jeu, puis d'être quand même assez émotionnellement assez stable. Là. C'est pas facile.
Ben non.
Tu vas voir ta mère à chaque jour, c'est mais elle ne te reconnaît pas.
Non, on souhaite ça à personne.
Ah non, c'est vraiment pas évident. Alors, continue de nous écrire au 418-971-1021. On va souhaiter que le dossier de cette femme, Christine Tremblay, se termine mieux de comment il a commencé. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on revient avec Pierre Graff, président directeur général des Jeunes Chambres de commerce. Les jeunes pousses, les jeunes entreprises sont aux prises avec de très grandes difficultés au niveau de la main-d'œuvre, ce qui fait en sorte qu'on prévoit plusieurs entreprises au Québec fermées, tout simplement cesser leur activité. On parle entre 400 à 1500 entreprises qui, chaque année, sont à risque de cesser leur activité. Je trouve ça énorme pour une économie comme on a au Québec. Donc, on va en parler avec Pierre Graff dans quelques instants à Boulevard 101. Marceau Le